Il est 6h20, 5 ans après l'accord de Paris, les pays du G20 sont-ils enfin sur la bonne voie pour endiguer le réchauffement climatique? Leurs émissions de CO2 ont baissé l'an dernier, alors certes c'est peu, moins 0,1%, mais c'est la première fois que ça arrive hors période de crise. Bonjour Sébastien Treyer.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. L'IDRI qui fait partie du consortium mondial Climate Transparency qui publie son rapport annuel. Moins 0,1% des émissions de gaz à effet de serre liées à la production de l'énergie. Comment vous l'analysez, vous? C'est quoi? C'est une bonne nouvelle ou c'est vraiment ridicule, moins 0,1%?
Alors en fait, le signal est intéressant. Il est encourageant parce que, comme vous l'avez souligné, c'est la première fois que ces émissions de gaz à effet de serre des plus grandes économies de la planète baissent sans que ce soit l'effet d'une crise économique. Et donc ça veut dire que il faut qu'on arrive à analyser qu'est-ce qui a produit ça. Néanmoins, il faut évidemment tout de suite nuancer. C'est trop peu. Cette baisse de 0,1%, c'est trop peu par rapport au rythme de changement annuel qu'on devrait avoir si on veut arriver à la neutralité carbone en 2050 et donc atteindre les objectifs de l'accord de Paris pour maintenir la température de la planète en dessous de bien en dessous de 2 degrés à la fin du siècle. Donc c'est trop peu. Et puis c'est fragile aussi. C'est pas encore un signal clair de changement structurel. Il y a deux indications quand même qui expliquent cette baisse. On voit une tendance qui commence à émerger et se confirmer de réduction de la consommation de charbon, et puis une autre tendance qui se confirme d'augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité. Donc ces indications sont intéressantes, mais on n'est pas encore en train de signaler un changement structurel.
Et puis il y a cette année 2020 là qui chamboule tout, c'est pas une année normale. D'après vos prévisions, la baisse va continuer, la baisse des émissions de gaz à effet de serre cette année?
Alors oui, la baisse de 2020 est à peu près certaine, mais pour moi, il faut vraiment la distinguer. Je parlais tout à l'heure de ce qui nous intéresse, c'est le changement structurel. La baisse de 2020 va être extrêmement conjoncturelle. Les émissions, c'est sûr, vont avoir baissé, mais c'est lié à une baisse, j'allais dire, délibérée des activités liées aux mesures de protection sanitaire.
Et notamment le trafic aérien.
Le trafic aérien et puis tout le secteur des transports, notre industrie, il y a quand même beaucoup de choses qu'on a mis à l'arrêt, et donc ça me semble important de souligner que c'est vraiment cette baisse des activités et de la mobilité, de nos déplacements, comme vous le soulignez, qui expliquera la baisse de 2020, qui est vraiment un phénomène aberrant, qui ne parle pas suffisamment de la tendance. Le retour des activités et de nos déplacements impliquera nécessairement un retour à la tendance des émissions de gaz à effet de serre, donc il faudra pas surinterpréter la baisse de 2020.
Et pour voir aussi si c'est structurel ou pas, il faut décortiquer tous les différents plans de relance qui sont mis en place partout pour éponger la crise. C'est ce que vous avez fait. Votre conclusion, c'est quoi? Vous craignez que ces plans de relance ne relancent les émissions?
Alors en fait, effectivement, les plans de relance, il faut être relativement prudent parce que on peut regarder les annonces qui ont été faites. Tous les pays n'ont pas encore déployé leur plan de relance et il faut aussi, dans un certain nombre de cas, comme on l'a déjà dit à l'IDRI sur le plan de relance français, le diable sera dans les détails. Il faut vérifier les choses qui seront mises sur la table. Vous avez raison de dire que ce qui sera vraiment structurel en 2020, c'est pas la baisse d'émissions, mais c'est ces milliers de milliards d'euros qui vont être mis sur la table. Et ça sera un investissement structurel inédit qu'on retrouvera pas dans les 10 années qui suivront. Donc le sens qu'on va donner à cette reconstruction de nos économies sera absolument déterminant. On sait qu'il y a des solutions qui sont à la fois bonnes pour l'emploi et pour l'environnement. Il y a des rapports qui l'ont montré. Mais ce qu'on voit aujourd'hui à l'échelle des pays du G20, c'est que les plans de relance financent pour 54% les énergies fossiles. Donc là, pour moi, je vois un signal très très clair de risque qu'on investisse trop dans l'économie dont on n'a pas besoin. Si on veut tenir les objectifs de l'accord de Paris. Et il y a une forme de dissonance avec des grandes annonces de la Chine, du Japon, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de la Corée du Sud, toutes ces grandes économies avancées qui ont dit on veut être neutre en carbone à la moitié du siècle, 2050 pour les pays de l'OCDE et puis 2060 pour la Chine.
Donc ils sont complètement contradictoires, c'est ça ?
Non, oui, vous avez raison. Il y a de la contradiction dans ces annonces, entre cette annonce d'objectifs à long terme et ce qu'on voit aujourd'hui dans les plans de relance. Dans certains cas, comme en France, on voit que le plan de relance pour 30%, c'est vraiment le sens de cette transition énergétique, avec des secteurs comme la rénovation énergétique des bâtiments ou le rail, qui nous semble aller tout à fait dans le bon sens. Mais par ailleurs, on n'a pas suffisamment clairement une priorisation de ce type de secteur dans l'ensemble des plans plan de relance, ou pas assez non plus de conditionnalité ou de contrepartie verte sur ce qui n'est pas uniquement ces secteurs énergie renouvelable. Et moi, ce que j'y lis ici, c'est donc à la fois ces annonces, ces grandes annonces sont très importantes, les annonces sur la neutralité carbone des grandes économies, ce qui annonce ça pour le long terme, c'est un message encourageant qui pourrait nous laisser prédire un basculement, mais on voit encore la force de contrepoids des secteurs liés aux énergies fossiles qui ont particulièrement l'oreille des ministères des Finances à un moment où on essaye surtout de sauver les emplois et pour des bonnes raisons.
Et la France, votre rapport n'est pas du tout tendre. Hein. Je vais juste citer une phrase. Le rapport brise le mythe d'une France championne du climat au niveau international dont le gouvernement se prévaut.
Alors en fait, on ne dit pas autre chose que ce que raconte le Haut Conseil sur le climat. Hein. C'est là-dessus, on s'appuie sur ces rapports qui font référence. Hein. Si on se compare aux autres pays du G20, on voit que la France est plutôt bon élève sur un certain nombre d'indicateurs. Mais le rapport du Haut Conseil sur le climat souligne que la baisse des émissions de moins 0,9% en 2019, qu'on a connue en France, n'est pas à la hauteur des 3% par an qu'il faudrait avoir si on veut tenir les objectifs que la France s'est elle-même fixés. Donc je pense que l'important, c'est plutôt de comprendre le changement là où on est de notre propre changement structurel, plutôt que d'essayer de se consoler ou de se rassurer par rapport à ce que font les autres.
Et c'est pour ça que c'est important et qu'on va suivre, notamment aujourd'hui, la décision du Conseil d'État. Il y a un recours qui a été déposé par des associations contre l'inaction climatique de l'État. Et le Conseil pourrait contraindre le gouvernement à réduire davantage les émissions de CO2. Le juridique, c'est le bon moyen pour faire bouger les choses, c'est le plus efficace ?
Je suis pas sûr que ça soit le plus efficace. Il me semble important que la société civile, les citoyens, les territoires et les acteurs entreprises signalent autant qu'ils peuvent au gouvernement en France et ailleurs hein, qu'ils soutiennent des arbitrages forts dans le sens de la transition écologique et que ce que les secteurs liés aux énergies fossiles demandent n'est pas la seule demande politique. Et donc pour moi, souligner par tous les moyens le besoin de prioriser, comme l'a fait d'ailleurs la Convention citoyenne sur le climat, de dire qu'on peut prioriser un certain nombre de mesures qui sont importantes, qui sont à la fois bonnes pour l'emploi et bonnes pour la transition écologique, ça me semble être essentiel. Et parmi ces éléments, il y a évidemment la voie du juridique qui ne peut pas aujourd'hui être laissée de côté, vu la difficulté que les gouvernements ont à trouver le bon sentier de crête pour nous sortir de la crise et nous emmener dans la bonne direction.
Et ce qui est intéressant aussi dans votre rapport, c'est que vous indiquez que la France est l'un des pays du G20 qui a le plus intérêt à agir, car c'est l'un des plus exposés au dérèglement climatique.
Oui, effectivement, on n'avait pas forcément conscience de cette comparaison avec les autres pays, mais les indicateurs utilisés dans le rapport montrent que la vulnérabilité et l'exposition de la France aux impacts du changement climatique est effectivement très forte. Ce n'est pas la question de la vulnérabilité et de l'adaptation dans laquelle on doit déjà essayer de se projeter. L'adaptation aux impacts futurs du changement climatique, c'est pas que pour des pays tropicaux. Ça existe aussi, on le voit d'après les indicateurs dans nos régions et pas uniquement avec l'ouragan Sandy à New York, c'est aussi la France.
Merci Sébastien Treillière, directeur de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Vous étiez l'invité du 5-7.